Nous allons traiter ce soir ce sujet des anges. Et je dois vous avouer que lorsque je l'ai commencé, je ne pensais pas que ça me donnerait autant de travail. Aussi, je me permettrai de passer un petit peu comme chat sur braise sur une introduction que j'avais préparée, mais dont vous aurez tous une copie. Ce sont 11 pages de référence. J'y ai mis à peu près 290 versets, si bien que vous aurez de quoi méditer sur différents aspects, et en particulier sur le ministère des anges. Donc, je ne m'étendrai pas trop là-dessus, parce que le résumé que j'ai préparé compte à peu près 11 pages de référence. Si bien que, et comme toutes les références bibliques sont mentionnées, vous pourrez à loisir regarder ça dans votre particulier. Simplement pour vous dire que cette introduction au sujet des anges, dans ce papier que je vous distribuerai, compte deux parties. Celle que j'ai préparée, qui n'est peut-être pas tout à fait comme les d'autres méditations où l'on parle des anges, est une liste de références. Il y a 11 sujets où j'ai relevé tous les versets de la parole où il est mentionné ange, le mot ange. Donc, il y a évidemment les versets qui parle de l'ange de Dieu. Ensuite, il y a ceux qui parlent de l'ange de l'Éternel. L'ange de Dieu, c'est à peu près 20 versets. L'ange de l'Éternel, c'est à peu près 54. L'ange du Seigneur, il y en a une dizaine. Et ensuite, viennent ceux qui se réfèrent à un ange en particulier. Il y en a à peu près 70. Il y a des anges au pluriel, là il y en a à peu près 56, et puis ensuite viennent les anges identifiés par le nom. Il y a 4 versets pour Michaël ou Michel, il y en a 4 pour Gabriel, et puis il y a toute une liste de versets où les anges ne sont pas appelés des anges. Ils sont appelés par des autres noms, comme par exemple les saintes myriades, comme l'armée des cieux, comme les fils de Dieu, comme l'assemblée des saints, comme l'armée des cieux, j'ai déjà dit, comme pouvoir, autorité, puissance et domination, être céleste, autorités et puissances, etc. Donc, je ne m'attarderai pas, sauf des cas particuliers là-dessus. Il y a en outre les chérubins. Je n'ai fait que effleurer le chapitre parce que il y a à peu près, attendez donc que je relise, une septantaine de versets, mais la plupart se réfèrent aux chérubins qui ont été fondus ou taillés dans le tabernacle et ceux qui étaient énormes pour le temple de Salomon. Ensuite, il y a les séraphins où il n'est parlé que d'une fois, c'est le chapitre les versets bien connus de Ésaïe 6, n'est-ce pas ? Ces séraphins qui voltaient dans le temple et puis qui criaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées », n'est-ce pas ? Alors, c'est vite dit. Et puis, il y a les anges de l'Apocalypse, dont je ne me suis pas trop occupé non plus, parce que, bon, c'est pas que je les néglige, mais c'est parce que, comme cela se refaire beaucoup au futur, et un futur qu'on a énormément de peine à se représenter, puisque tout l'Apocalypse est écrit en symbole et a donné des interprétations quelquefois, j'aime mieux pas trop m'y référer, et alors il y a finalement, pour la dernière catégorie, la 11e, Satan et ses anges déchus. Je ne fais que les mentionner, puisque de toute façon, ce, sujet de Satan et des anges déchus, a été traité il y a, je crois, combien ? Mais c'est votre père qui l'a traité. C'était au mois de juin et c'est le père de Rachel qui a traité en détail ce sujet. Donc, je n'y reviens pas. Et puis enfin, tout à la fin, vous aurez une liste de 12 références, parce qu'évidemment, je n'ai pas lu que la Bible, si bien c'est l'essentiel, mais les références qui ont servi à élaborer tout ça, je ne m'y attarde pas, vous le trouverez. Et alors maintenant, j'aimerais encore vous dire une chose, c'est que tous les affirmations, ce que j'apporterai actuellement, eh bien, ce sont, j'ai mis les références de tous les versets. Les versets sont en noir, bien épais, vous les trouverez facilement. Et puis dans les listes, il y a aussi une particularité. Je les ai écrits en lettres d'imprimerie, mais il y a un caractère d'italique pour tous les cas où, par exemple, dans une scène, il est parlé d'ange. Mais c'est toujours le même qui apparaît. Par exemple, je prends le cas de Juge 13, où un ange apparaît à la femme de Manoah, puis à Manoah, puis aux deux, et quelquefois il est appelé l'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu, un homme. Donc, c'est toujours le même ange, mais je l'ai mis en italique pour qu'on ne pense pas qu'il y avait une dizaine d'anges qui étaient sur ce sujet. Et je crois que pour l'introduction, ce serait à peu près tout. Oui, il me semble. Bon, si jamais je me rappelle de quelque chose, je reviens. Voilà. Alors, quand on traite un sujet comme les anges, on doit prendre une certaine précaution. Enfin, c'est toujours comme ça dans la Bible, mais malgré tout, ça c'est assez particulier, parce qu'il s'est tissé depuis le 1er siècle, vous vous rendez compte, ça fait 2000 ans, une belle série de légendes au sujet des anges. Parce que comme ils apparaissent furtivement et qu'ils sortirent, certains disent les avoir vus, d'autres ne les ont pas vus, d'autres que ce sont des visions. Donc, il faut faire forcément un choix. Et ce choix a été très vite fait, et je le dis en introduction, ne parler que de ce que dit la parole. Suivant les questions qu'on pourrait avoir, oui, on entendait dire beaucoup de choses, mais la parole, la Bible, le certifie-t-elle, oui ou non ? Que dit-elle ? C'est ça qui nous importe. Et alors, bien sûr que je me base sur les deux versets que j'ai cités, d'ailleurs, que vous trouverez en 1 Corinthiens et 2 Corinthiens, en 2 Corinthiens, n'est-ce pas ? Et puis surtout, le verset de Deutéronome 29, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos fils à toujours. C'est-à-dire qu'encore une fois, là nous voyons l'autorité de la parole qui nous confie un message de la part de Dieu auquel nous avons à nous tenir. Et je suis très heureux de pouvoir, après avoir affirmé ceci, citer deux témoignages qui appuient cette affirmation. Le premier est de Jean Calvin, donc vous connaissez probablement, qui dit ceci. Nul ne niera que celui qui a écrit la hiérarchie céleste, qu'on intitule de Saint-Denis, n'est disputé de beaucoup de choses avec une grande subtilité. Mais si quelqu'un épluche de plus près les matières, il trouvera que la que pour la plus grande part, il n'y a que pur Babil. Ça, c'est l'opinion de Jean Calvin. Et alors, j'ai cité également, comme référence, un exégète catholique contemporain, A.M. Gérard, qui dit ceci. Il ne faut pas chercher dans l'écriture elle-même l'indication d'une sorte de hiérarchie et d'endivisionnement qui aboutirait aux neuf cœurs des anges dont saint Ambroise parle pour la première fois au IVe siècle. Et alors, c'est là que l'on voit que dans les différentes communauté chrétienne, n'est-ce pas ? Eh bien, même là où on avait affirmé un tas d'histoires inventées, n'est-ce pas ? Eh bien, Saint-Denis, la Réopagiste et d'autres, n'est-ce pas, ont écrit des histoires qui sont très plaisantes à lire, mais qui ne reposent que sur la tradition, et d'autres, comme la hiérarchie des anges, les sept cœurs d'anges, se réfèrent à des passages de livres apocryphes, dont Tobie et quelques autres. Donc, inutile de les citer. Et enfin, j'aimerais quand même citer aussi l'apôtre Paul. « Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, si ce fut dans le corps, je ne sais. Si ce fut hors du corps, je ne sais. Dieu le sait. Je connais un tel homme qui a été enlevé jusqu'au troisième ciel, et je sais que cet homme-là, c'était donc lui, a été enlevé dans le paradis et a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à l'homme d'exprimer. 2 Corinthiens 12, 2 à 4. Et cet homme, qui a été ravi, comme il le dit, au troisième ciel, et qu'est-ce que c'est que le troisième ciel ? C'est la demeure de Dieu, c'est la demeure des anges. Eh bien, il n'en parle pas. Et il dit que ce qu'il a vu est ineffable et qu'il n'est pas permis aux hommes d'en parler. Donc, tenons-nous-en à ce que dit l'apôtre Paul. Alors, dans les généralités au sujet des anges, il est vrai que il y a aussi une difficulté, parce qu'il n'y a pas de doctrine dans la parole, il n'y a pas de doctrine des anges. Il n'y a pas un chapitre où on nous explique par A plus B ce qu'ils sont. Et ce sont tous des versets épars qu'il s'agit de réunir ensuite pour avoir un tout. Ils apparaissent en général dans le cadre d'un événement qui est, disons, le thème dont on s'occupe. Ils apparaissent comme des auxiliaires, généralement furtifs. C'est pas très long, leur action, n'est-ce pas ? Mais c'est décisif. Ce qu'il fait décide de la situation. Et ils disparaissent dès que leur tâche est effectuée. Si bien qu'en général, dans ces récits, on s'occupe de ce qui s'est passé, mais on s'occupe fort peu de qui l'a effectué. C'est pour ça qu'on a peu de références à leur sujet. Et quoi que cela ne soit pas précisé dans chacune des occasions où l'on en parle, ils agissent toujours sur le commandement de Dieu qui leur prescrit le début, le but, le domaine, l'intensité et ou la fin de leur action. Et le meilleur exemple que l'on puisse donner de ceci, c'est ce qui se passe dans 2 Samuel 24, n'est-ce pas, où l'on voit qu'après le péché qui a poussé David au dénombrement, l'ange de l'Éternel sévit, il détruit presque 70 000 hommes jusqu'au moment où Dieu parle et dit « Assez ». Alors l'ange remet son épée et la plaie s'arrête. le jugement s'arrête. Mais, si bien qu'il n'y a pas de doctrine des anges dans la parole nous dit que certainement, dans les derniers temps, apparaîtront des doctrines de démons. C'est 1 Timothée 4. C'est déjà le cas précisément aujourd'hui. Je ne veux pas en parler, ce n'est pas notre sujet. Disons que c'est plus courant aux États-Unis qu'ici, qu'en Europe en général. Alors, quant aux anges, du point de vue général, les anges sont actuellement et momentanément, je dis bien momentanément, supérieurs aux hommes, Hébreux 2. Et cela depuis la chute de l'homme en Éden. Avant la chute, j'aimerais bien qu'on retienne cette phrase, avant la chute, l'homme gouverne, les anges le servent. Ce passage que je viens de citer est une phrase de Philippe Calam dans son étude sur l'Épître aux Hébreux. Et il se réfère là-dessus à ce que la domination sur toute chose et sur la terre, n'est-ce pas, a été donnée à l'homme et non pas aux anges. C'est l'homme qui domine. Et c'est aussi ce qu'a connu le Seigneur, parce que lui est né de l'Esprit, donc sans aucun péché, c'est la première épître de Jean au chapitre 3. Et il s'est ensuite chargé de nos péchés. J'ai oublié quelque chose. La domination a été confiée à l'homme, n'est-ce pas ? Mais ensuite, l'homme a péché. Et c'est pour ça qu'il est devenu momentanément inférieur aux anges. Quand il n'avait pas péché, il était supérieur. Maintenant qu'il a péché, il est momentanément inférieur. Et c'est ce qui s'est passé avec notre Seigneur. Il est né de l'Esprit, donc sans péché. Il s'est ensuite chargé de nos péchés. Et par conséquent, je cite la parole, a été fait un peu moindre que les anges. C'est Hébreux 2. Puis, après sa résurrection, s'étant assis à la droite de Dieu, alors il est, entre guillemets, devenu d'autant plus excellent que les anges. C'est Hébreux 1, verset 4. Alors, malgré leur supériorité momentanée sur les hommes, les anges ne peuvent pas pour autant et sous aucun prétexte être l'objet d'un culte quelconque. C'est Matthieu 4, Colossiens 1, 18, n'est-ce pas ? Il n'y a pas d'objet de l'adoration que le Seigneur Jésus, n'est-ce pas ? C'est le Seigneur Jésus qui dit en Matthieu 4, « Tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Dans Colossiens 2, « Que personne ne vous frustre faisant sa propre volonté dans le culte des anges. » Donc, pas d'adoration. Ce sont des créatures, ce ne sont pas des divinités. Et d'ailleurs aussi, dans Apocalypse, je crois que c'est 19, Jean se pose au pied de l'ange qui le relève pour lui dire, ce n'est pas moi que tu adores, tu n'es pas à mes pieds. Alors, les anges, leur origine, leur nature, leur nombre. Tous les anges ont été créés par Dieu, et cela dans une seule création. On le voit dans le psaume 148, on le voit en Néhémie, on le voit en Ézéchiel, on le voit en Colossiens, tous les versets sont donnés. Donc, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, les anges sont créés. Certains, parmi ces anges, ça on le lit dans Jude, au verset 6, n'ont pas gardé leur origine. Ce sont les anges déchus que Dieu, je cite de nouveau la parole, a livrés pour être gardés dans des chaînes d'obscurité en vue du jugement. C'est 2 Pierre qui nous le dit, vous aurez la référence, et c'est Jude également au verset 6 qui le dit. D'autres, les anges du diable, qui sont appelés anges du diable, dans Matthieu 25, et les démons, sont assujettis, eux, à Satan, et le servent et le serviront jusqu'à leur jugement en Apocalypse 12. Enfin, d'autres n'ont pas péché, ils sont restés soumis à Dieu, ce sont les anges qui, dans la parole, sont appelés anges saints ou anges élus, c'est en 2 Timothée et dans Luc, et ce sont ces anges élus, de ceux-ci que nous nous entretiendrons ce soir. Alors, le mot ange est une traduction du mot hébreu malak, M-A-L, apostrophe A-K dans l'Ancien Testament, et du mot grec angelos dans le Nouveau Testament. Et la véritable signification de l'hébreu et du grec est la même. Cela veut dire messager. Alors je lis une citation d'un auteur dont je vous recommande la lecture. C'est M. David Jeremia qui a écrit un livre extrêmement intéressant dont le titre est « Ce que la parole dit des anges ». Alors voilà ce qu'il dit. Le mot « ange » est une traduction du mot hébreu « malak » dans l'Ancien Testament et du mot grec « angelos » dans le Nouveau Testament. La véritable signification de ces deux mots est « messager ». C'est la naissance de ce que sont les anges. Ils sont envoyés au nom de quelqu'un d'autre. Ils sont les agents, les ambassadeurs de quelqu'un d'autre. Ils le représentent lui et ne viennent jamais en leur propre nom. Ils transmettent et agissent selon ses instructions et sont soumis à son autorité. Maintenant, voyons leur nature. Les anges, comme il nous est dit en Hébreu 1, qui est une définition fondamentale, les anges sont des esprits, des êtres incorporels, mais ils ont la faculté, en certaines occasions, de se rendre visibles sous une forme humaine. C'est suivant le service qui leur a été confié. Ça, nous le voyons dans Luc 24, n'est-ce pas, dans le jardin de Gethsémané. Un ange est apparu resplendissant. Et dans combien d'autres, dans Acte 1 également. Ils peuvent donc se rendre visibles sous une forme humaine, mais ils l'ont toujours fait sous la forme d'un homme, sous une forme masculine. Alors, ne me demandez pas ce que ça signifie, je n'en sais rien. Mais ils ont toujours choisi. Peut-être que cela leur a été imposé, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sont toujours des hommes. Toujours. Et leur apparition, même sous la forme d'un homme, a pu causer de la crainte, voire même de la frayeur. Et c'est pour ça que dans plusieurs occasions, lorsqu'ils apparaissent, et que cette frayeur est ressentie, quelle est leur première parole ? À Marie, par exemple, ne crains pas. Ne crains pas. Donc, tout envoyé, tout subordonné à l'autorité de Dieu, ils inspirent, par leur apparence, une certaine crainte. Ils n'ont, en parlant de leur nature, ils n'ont pas la faculté de se marier ni de se reproduire. Ça, c'est le Seigneur qui le dit, pas de discussion là-dessus. C'est Dieu, c'est le Seigneur lui-même qui l'enseigne dans Matthieu 20, dans Marc 12 et dans Luc 20, dans trois évangiles, faut-il croire que c'est important. Créés par Dieu, ils ont un commencement, mais ils vivront éternellement. Donc ils ne sont pas éternels puisqu'ils ont un commencement. Mais ils vivront éternellement, et ça nous l'avons en Apocalypse 22. Alors maintenant, on a leur nature, on sait ce qu'ils sont. Quand ont-ils été créés? Alors là, j'ouvre une boîte de Pandore parce qu'il y a je ne sais pas combien d'interprétations possibles. Mais enfin, il est évident que les anges ont été créés avant la création du monde et très probablement entre le verset de Genèse 1:1 et le verset de Genèse 1:2. Il y a entre ces deux versets un abîme que personne ne sonde, où il a été donné des interprétations certainement bien fantaisistes, mais on n'en sait rien. Seulement, c'était évident que c'était avant la fondation du monde, puisque, comme nous l'avons chanté dans le cantique, n'est-ce pas, il se réjouissait, n'est-ce pas, de la création du monde, c'est Job qui nous l'apprend. C'est Job 38, vous avez la référence. Alors, d'autres émettent une autre hypothèse, et il pense que cela pourrait être entre le verset de Genèse 1:19 et le verset de Genèse 1:20. Pourquoi? Parce que jusqu'au verset 19 de la Genèse 1, il nous est raconté la création de l'univers astral. Et puis depuis le verset 20, arrivent les animaux. Donc, entre ces deux, ça pourrait être. Moi, je pine pour la première. Alors, combien sont-ils? Leur nombre se compte par myriades de myriades. C'est les psaumes qu'ils disent, Jude, Apocalypse. D'autres versets parlent d'une multitude. Le Seigneur lui-même parle d'un nombre qui peut osciller entre 78 000 et 144 000. Dans le sens que c'est les anges qu'il aurait pu avoir à sa disposition s'il les avait demandés à Dieu. N'est-ce pas? La disposition d'une douzaine de légions. Eh bien, il n'en a pas eu besoin, mais c'était à sa disposition. Et compte tenu de Matthieu 22, etc., il y a autant d'anges aujourd'hui qu'au jour de leur création, et leur âge dépasse celui de tout être humain, bien sûr. Et dans Deutéronome 17:3, en rapport avec 1 roi 22, la comparaison de leur nombre est égale aux étoiles dans les cieux. Alors évidemment qu'on sait très bien la quantité, enfin, on sait très bien que ce sont des myriades qu'il y a d'étoiles, pas seulement dans notre galaxie, mais encore beaucoup plus loin. Quels sont les caractères et les qualités des anges? Les anges ont été dotés de tous les caractères et qualités de la personnalité, l'intelligence, la sagesse, le discernement, les sentiments, la volonté, la force, la puissance. Tous ces caractères se retrouvent dans l'action d'anges au cours de l'Ancien Testament comme du Nouveau. Seulement, ils ne sont pas omniscients. Ils n'ont pas ce caractère qui est réservé à Dieu. C'est Pierre qui nous le dit. Quoi qu'ils sachent des choses que nous ne savons pas, nous le voyons quand au tombeau du Seigneur, il a dit aux femmes, ne cherchez pas, il n'est pas ici, il est ressuscité. Eux le savaient, les femmes ne le savaient pas. Ils ne sont donc pas omniscients et ils ne sont pas omniprésents comme le Seigneur l'est, comme on le lit dans le psaume 139. Ils doivent donc se déplacer d'un endroit à l'autre. Ils viennent, ils vont, ils montent, ils descendent. Et ça, pour ces quatre dimensions, en tout cas, on a des exemples dans la parole. Ils sont doués de compréhension, n'est-ce pas ? La sagesse si variée de Dieu leur ayant été communiquée par la connaissance du mystère de Christ et de l'Église. Ça, c'est Éphésiens 3, 10, dont ils sont témoins, comprenant, par exemple, qu'une femme qui prie doit avoir sur la tête une marque de l'autorité de Christ sur l'Assemblée. Ça, c'est 1 Corinthiens 13, 10. Outre ceci, les anges sont extrêmement puissants, mais contrairement à Dieu, ils ne sont pas tout puissants. Ils sont très puissants, mais pas tout puissants. Ils ont dû lutter âprement avant de remporter des victoires. Dans Daniel 10, on voit une lutte de 3 jours. Ils sont capables de s'opposer aux forces de la nature, aux 4 vents, comme nous le lisons dans les psaumes, psaume 103, et de vaincre la puissance du mal, comme en Daniel 10, encore une fois. Et puis, ils ont vaincu les ennemis du peuple d'Israël, en chronique, et mais ils sont limités dans leur force. Oui, nous voyons dans Apocalypse 5 que personne n'a été trouvé pour ouvrir le livre. Aucun. Maintenant, passons, puisqu'on sait à peu près ce qu'ils sont, combien ils sont, etc., leurs qualités, que font-ils ? Eh bien, par rapport à Dieu, leur activité fondamentale, c'est l'adoration. On voit que dans Néhémie, dans les psaumes, n'est-ce pas, qu'ils adorent Dieu. C'est une fonction fondamentale qu'ils ont. Mais ils reprennent et condamnent ceux qui veulent les adorer. Et ils leur ordonnent d'adorer Dieu. Ça, c'est 2 versets de l'Apocalypse au chapitre 19 et au chapitre 22. Et en cela, ils imitent l'ange de l'Éternel apparu à Manoa. Là, l'ange de l'Éternel leur a commandé d'offrir le sacrifice à Dieu, pas à lui. Et les séraphins qui volaient et criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint !» Et l'Éternel des armées montre bien qu'ils comprennent la divinité de Dieu. Et Dieu soumet les anges à sa volonté en leur ordonnant d'adorer le Seigneur, que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. De nouveau, c'est Hébreux 1. Donc, je vous recommande aussi beaucoup de lire les trois premiers chapitres d'Hébreux. Il est beaucoup parlé des anges, là. Et l'on voit très bien quelle est leur activité. Mais naturellement, qu'en leur commandant quelque chose, l'obéissance implique l'action de la volonté. Alors, elle peut être positive, on se soumet, on obéit, ou elle peut être négative et on se rebelle. Et c'est ce qui est arrivé à quelques-uns comme l'a démontré Satan, quand il dit, c'est le chapitre 14 de Ésaïe, l'oracle contre Babylone, n'est-ce pas ? Je monterai, je m'élèverai, je m'attirerai, n'est-ce pas ? L'orgueil de Satan pour prendre une place dont il ne s'est pas soumis. Et alors, cela montre la gravité de ce péché. Mais l'adoration est certainement une part importante de leur activité. Et l'on voit dans Néhémie, dans les psaumes, qu'ils sont spectateurs et témoins des gloires de Christ et des immenses richesses de sa grâce, selon Hébreux de nouveau 12. Donc, ils exécutent aussi les ordres et les jugements de Dieu, alors là, il y a toute une série de versets, en ardeur et en durée, selon de nouveau Chroniques, et cela implique autant la transmission de certains messages, n'est-ce pas ? Dieu leur dit, tu diras ceci à celui-là, que d'accomplir une promesse de Dieu, comme on le voit dans Exode, ou une tâche qu'il leur est confiée, comme dans ce fameux chapitre 3 de Daniel, qui est aussi très intéressant pour voir les luttes qu'il y a entre les autorités dans les lieux célestes. Maintenant, quatrième point, quelle est l'activité des anges au service de notre Seigneur ? Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a, beaucoup d'actions différentes. On voit l'activité de l'ange Gabriel avant la naissance du Seigneur. Ils sont présents pour annoncer sa naissance au berger et louer Dieu. Ils sont témoins de sa venue. Ensuite, vous voyez le nombre d'actions qui vont arriver. Ensuite, un ange ordonne à Joseph d'emmener Jésus en Égypte, puis de revenir en Galilée. Au désert, Satan reconnaît que le Seigneur est sous la garde des anges, donc ils l'ont gardé, qu'il est servi par eux. C'est dans Matthieu et dans Marc. Le Seigneur a été fortifié par un ange à Gethsémané. Un ange a roulé la pierre de son tombeau. Il a ordonné aux femmes d'aller annoncer la résurrection. Et finalement, ils ont été présents lors de son ascension. Donc, tout au long de ces 3 ans de ministère, même avant en ce qui concerne Marie, ils ont été actifs de près dans la vie et le ministère du Seigneur. Et ils exécutent la volonté du Seigneur en jugement, comme on le voit dans Acte 12. Alors là, c'est la mort, le jugement de Hérode Agrippa, qui est mort subitement, rongé les vers. Et ça, c'est un jugement. Et ils interviennent, alors, dans l'annonce du salut aux gens, à nous, n'est-ce pas ? C'est ce que nous avons chanté aussi dans une strophe, n'est-ce pas ? On voit la femme qui se réjouit d'avoir retrouvé sa drachme. Maintenant, point suivant, quelle est l'activité de ces mêmes anges envers les hommes ? Alors, encore une fois, nous avons dans Hébreux 1 la définition la plus complète. Les anges ne sont-ils pas des esprits administrateurs envoyés pour servir en faveur de ceux qui vont hériter du salut ? Hébreux 1, 14, Hébreux 13, 2. Luther pensait même que ce service était la raison principale pour laquelle ils avaient été créés. C'est l'avis de M. Luther, elle est tout à fait respectable, mais il me semble que l'adoration est plus importante encore que le service. Enfin, lui, M. Luther, pensait ainsi. Tandis que Calvin pense une autre chose, et je vais citer ses propres paroles. Ce n'est pas un petit gage de l'amour de Dieu envers nous que de savoir qu'il s'emploie sans cesse pour nous. Un petit gage de l'amour de Dieu. C'est du français délicieux. Mais voilà, pour les hommes, comme autrefois, ils reçoivent de Dieu une mission, celle de nous protéger de certains dangers, de nous secourir dans d'autres circonstances. Et là, alors, il y a une bonne série de versets. Et ils nous instruisent aussi, ils nous transmettent des instructions détaillées pour certaines choses, en pleine coopération avec le Saint-Esprit. Et la preuve que c'est ainsi, on l'a dans Acte 8, où on voit que les anges coopèrent avec Philippe lorsqu'il doit se rendre sur le chemin de Gaza. Ils exhortent à ne pas craindre, ils encouragent le chrétien, je cite tous les versets, et pour réaliser ces services en notre faveur, les anges nous observent. Alors, on l'a vu, ils observent ce qui se passe dans l'Assemblée, ils nous observent comme ils ont observé précédemment les épreuves des apôtres telles que c'est l'épître, la première épître aux Corinthiens qu'il dit, tel un spectacle pour les anges, où ils ont encore été témoins de certaines circonstances et le seront prochainement lors du jugement dernier. Ça, on le voit en Luc 12. Ensuite, il y a l'activité future des anges. Alors là, il faut distinguer la venue du Seigneur quand il reviendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Donc, à ce moment-là, tellement important pour nous, eh bien, les anges seront encore les compagnons de cette action glorieuse. Nous pouvons lire ça en Matthieu 20, 25, en Luc 9, en 2 Thessaloniciens. Puis, dès l'introduction de l'Église au troisième ciel, les anges sont associés à l'adoration des vivants et des anciens. On lit ça dans Apocalypse 5. Tout le monde connaît ce verset qui est cité très souvent dans nos cultes. Et ensuite, parmi ces anges, il y en a quelques-uns qui seront aux 12 portes de la nouvelle Jérusalem comme serviteurs à la gloire de Dieu. C'est Apocalypse 21. Pourquoi ils y seront ? Pourquoi y a-t-il des portes dans cette nouvelle Jérusalem ? Ce n'est pas notre sujet ce soir et je serai bien en peine de vous l'expliquer. Mais ils seront envoyés pour rassembler les élus autour de Christ, c'est en Matthieu 24, et auparavant, avant l'instauration du Seigneur, le Seigneur aura envoyé ses anges pour séparer les méchants des justes et jeter ses premiers dans la fournaise de feu. Voilà ce que nous savons, appuyé chaque fois par des versets de la parole. Il y aura une liste beaucoup plus complète et détaillée dans les listes ici incluses, la liste la quatrième jusqu'à la septième, où l'on voit en particulier 10 différentes actions des anges. Mais maintenant, j'aimerais quand même toucher 3 questions, parce que je sais que tout le monde y pense. Donc, autant le dire. Je vais lire un verset. C'est Matthieu 18, 10. C'est le Seigneur qui parle. Gardez-vous de mépriser ces petits, car leurs anges voient continuellement mon Père. Je vais lire un second verset. c'est dans Acte 12, les gens qui étaient réunis dans la maison où l'assemblée priait pour Pierre, qui était en prison, n'est-ce pas ? À un moment donné, Pierre est arrivé à frapper à la porte. La servante, Rode, a couru ouvrir, et de joie, elle est revenue pour dire que c'était lui. Mais elle n'a pas ouvert. Et ceux qui priaient lui ont dit, « Tu es folle. Ce n'est pas lui, c'est son ange. » Alors, sur la base de ces deux versets, il y a des théories qui... Enfin, oui, et des imaginations qui se sont forgées en disant, « Chaque chrétien a un ange. » C'est son ange personnel. Il est à son service. Et alors, il y a des gens qui croient, moi, j'ai mon ange, et qui pensent, j'ai demandé quelque chose à mon ange, j'ai parlé à mon ange, j'en parlerai à mon ange, n'est-ce pas ? C'est mon ange. Alors, je sais bien que parmi nous, c'est quelque chose que nos parents, si on a eu cette réflexion, se sont empressés de nous dire que ce n'était pas possible. Mais disons qu'on peut toujours argumenter, et ceci, si c'était le cas, eh bien, il y aurait une doctrine qui nous enseignerait dans la parole que nous avons la possibilité d'avoir recours à un ange. Cela nous serait enseigné. D'autres versets le confirmeraient, mais il faut savoir que cette croyance-là n'a pas été, elle n'est pas tombée du ciel comme ça. Tradition. Une tradition parmi les Juifs, et cela est resté appuyé par ces deux versets, n'est-ce pas ? Mais leurs anges ou son ange ne voulait pas dire qu'ils étaient attribués à eux. Ils pouvaient s'occuper, et certainement qu'ils s'occupaient de bien d'autres que Pierre à ce moment-là. Donc, il n'y a pas de motif dans la parole pour appuyer cette croyance. Par conséquent, deuxième question, est-il biblique de s'adresser à un ange, de le prier, de lui demander sa protection? Alors, aucun verset biblique ne l'autorise. Et le seul verset qui pourrait, à la rigueur, le suggérer, est cité par le diable. Donc, autant l'éviter. Et c'est ce que nous lisons, n'est-ce pas, lors de la tentation, n'est-ce pas ? Dit à ses anges, etc. Alors, on voit bien que cela n'a aucun fondement biblique, et Dieu seul commande les anges. C'est un verset de Matthieu 26, 53. Ainsi que notre Seigneur, quand il dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel », demeure des anges, et sur la terre, Matthieu 28. Et il serait de plus tout aussi faux de passer par les anges pour s'adresser à Dieu, car Dieu est un, et le médiateur entre Dieu et les hommes est un, l'homme Christ Jésus. 1 Timothée 2. Donc, pas d'intercession, pas de prière à adresser aux anges. Encore une petite question. Ce n'est pas très important, mais enfin, ça permet d'éclairer les choses. Je vais lire quelques versets. Quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu éclataient de joie. Ça, c'est le verset de Job qui nous indique que les anges étaient déjà là à la création. Ensuite, il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu ». Ça, c'est à la naissance du Seigneur. Troisième verset. Et j'entendis une voix de beaucoup d'anges autour du trône, disant à forte voix, digne est l'agneau. Donc, nous avons Job 38, Luc 2, Apocalypse 5, et les trois ne parlent pas de chanter. Parce que très souvent, on dit, n'est-ce pas, le chant des anges ou l'adoration des anges en pensant à un chant. Eh bien, c'est pas une hérésie horripilante, mais enfin, c'est parce que la parole dit. Les anges disent, ils ne chantent pas. Et alors on dira, oh, mais ça n'a pas d'importance, mais qu'est-ce que c'est un détail? Non, pas tellement. Pas tellement. Parce que ça, oui, vous m'excuserez, j'ai pas noté la référence. Mais je ne sais plus qui l'a dit, mais c'est tout à fait juste. Le chant, l'adoration, a été réservé à ceux qui ont été, qui ont connu le salut. C'est la joie du salut, c'est la joie de la rédemption, c'est la joie que l'on trouve parmi les enfants d'Israël, n'est-ce pas ? Une fois le Jourdain passé, c'est le premier chant, le chant de la délivrance, le chant de celui qui jouit de son salut. Les anges, n'ayant pas connu cette situation-là, eh bien, le chant ne leur est pas réservé. Alors, j'arrive pratiquement dans les temps, et il y avait encore une question qui était posée. Qu'en est-il des visions d'anges? Eh bien, écoutez, là, il y a plusieurs versets qui nous montrent dans la parole, en particulier Luc, Actes, etc. J'ai donné les références de visions d'anges. Et vous connaîtrez certainement parmi des personnes, je ne sais pas dans l'Assemblée, mais peut-être des personnes de votre connaissance qui parlent d'avoir vu un ange, etc., etc. Eh bien, moi, je n'en ai jamais vu, je dois dire. Mais je suis conscient d'avoir été protégé à certaines occasions par un ange. Ah, ça, oui. Je n'avais jamais pensé que certaines circonstances où je me suis trouvé en danger, c'était un vrai danger. Eh bien, tout d'un coup, un événement est arrivé et tout a été arrangé. Eh bien, il y avait très probablement là, quoique je ne l'ai pas vu, quoiqu'il ne se soit pas manifesté, un ou des anges. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut les voir? Eh bien, je dirais d'une part que dans, je ne sais pas, pourrait en avoir vu parmi mes connaissances, mais d'autre part, il ne faut pas limiter ni la puissance ni la grâce de Dieu. Elle peut se servir de ça pour amener une âme au Seigneur. Elle peut se servir de cela pour dire, ah, eh bien, le Seigneur, là, s'est manifesté dans telle circonstance. Alors, c'est ni oui ni non. Je crois que dans la parole, il ne faut pas forcer les versets. Il est apparu à certains, ça fait bien longtemps. Je n'en connais pas actuellement qui puisse le revendiquer. Mais gardons-nous de limiter la puissance et la sagesse du Seigneur qui pourrait utiliser un ange pour sauvegarder quelqu'un. Eh bien, en conclusion, soyons comme Monsieur Calvin et reconnaissons que c'est une grâce de Dieu que de savoir que nous avons, qu'il emploie pour nous garder, pour nous secourir des anges et que leur service en faveur du chrétien est aujourd'hui encore une manifestation de son amour. Que de savoir que ceux qui sont si puissants, ceux qui ont annoncé de choses si importantes dans la vie du Seigneur, qui se sont manifestés dans des occasions importantes de sa vie, eh bien, sont des esprits administrateurs que Dieu utilise en notre faveur. Et nous pouvons être reconnaissants et tout de le savoir. Et j'espère que ces quelques petits commentaires et la liste des versets de la parole qui les appuient, eh bien, seront en bénédiction pour chacun, pour voir toutes les puissances qui, aujourd'hui encore, sont là en faveur du chrétien. Et c'est un immense privilège que de le savoir, même si nous ne pouvons pas entrer, disons, en contact avec eux, mais que nous pouvons solliciter notre Père quand nous, dans des circonstances où nous en avons besoin, sans avoir à besoin de lui préciser « Envoie-moi ton ange ». Lui sait ce qu'il faut faire et il le fera certainement pour nous garder, pour nous encourager, pour nous fortifier.